la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Et non, en fait, on change d'émission, en fait, on change de programme, ça aura rien à voir. Bonsoir et bienvenue dans la Groquinale, l'émission d'actualité de Radio Campus Paris. C'est une toute nouvelle émission, voilà, qui a été construite pour remplacer la matinale de 19h que notre sacro-saint patron Elon Musk considère comme trop gangrénée par des activistes d'extrême gauche. Et oui, parce que, oui, Elon Musk écoute la matinale. Enfin, son clone numéro 3227, enfin, celui-là, je crois, 3,5, comme l'a fait Krantz de la radio, blague de bande FM, demi-fréquence. En tout cas, le projet de la Groquinale, c'est le même que celui de notre nouvelle encyclopédie libre, hein, évidemment, Groquipédia. Nous aurons à cœur de délivrer des informations vraies, toutes vraies, rien que vraies. Mais alors vraiment, vraies de vraies, quoi. Plus vraies que la vérité, tellement c'est vrai. Désormais, toutes les interviews et chroniques de l'émission seront écrites non plus par des bénévoles, mais par des intelligences artificielles. Attendez-vous désormais à entendre des questions du type « Vous venez nous parler du Festival du Livre ». De quoi ça parle ? Ah non, pardon, ça vous dépaysera pas parce que les bénévoles le font déjà. Bon. Non, mais en revanche, vous aurez des chroniques par intelligence artificielle qui vous feront découvrir des sujets aussi intéressants que les rues de Paris. Non plus. Et alors, pour le coup, la vraie nouveauté de la Groquinale, c'est qu'elle est à 19... Non, la nouveauté, c'est qu'elle vous donnera des informations résolument anti-woke. Ça, pour le coup, ça n'a jamais été fait. Alors, excusez-moi, on me parle dans le casque. Oui, les sources. Ah, ouais. Oh oui, c'est-à-dire que... Oui, non, en fait, l'IA, on n'utilise pas les sources. Non, parce qu'on s'est rendu compte que les infos sourcées, ça rendait de gauche, donc nous, ça nous arrangeait pas trop. Non. Ah bon, bah d'accord. Bon, bah l'IA, apparemment, qui a écrit le texte du présentateur de la Groquinale, n'est plus tout à fait au point. Donc, en attendant l'extrême droite... Enfin, la vérité vraie, je veux dire, on va devoir se contenter d'une nouvelle émission de la matinale de 19h qui se base sur des valeurs qui risquent de donner de l'urticaire à Elon Musk et tous les manias de la Silicon Valley inféodés à l'Amérique de Trump, c'est-à-dire les valeurs du journalisme. Et on passe aux choses sérieuses tout de suite au sommaire de cette émission. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui est en cours après avoir été ratifié le 27 juin dernier. On en parle dans un instant avec Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales. On parle ensuite de l'avenir, cette fois du Congo-Brazzaville en deuxième partie d'émission, puisqu'on sera avec Mélène Destin-Gavet-Elengo, président du parti Le Mouvement Républicain et auteur du livre Le Changement vers un Congo prospère. Programme qui sera entrecoupé de vos rubriques habituelles, le flash info de Samia vers 19h31, l'histoire d'Halloween par Fabien vers 19h37 et en conclusion de l'émission, la chronique de Corian qui a vu pour nous le film On Falling de Laura Carrera. Vous avez le programme, c'est jusqu'à 21h sur le 93.9 LDAB+, Canal Campus en Ile-de-France et partout ailleurs sur le player de radiocampusparis.org.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et ce 27 juin 2025, je le disais, a été signé l'accord de Washington. Il a marqué le début du processus de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après plusieurs mois, voire plusieurs années de conflit armé qui a débuté en mars 2022. 4 mois après ce premier accord de paix, les négociations ne sont toujours pas terminées et la guerre continue dans la région. Thierry Vircoulon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, vous êtes associé à l'Institut français des relations internationales et vous êtes spécialisé dans l'analyse des conflits et des questions de gouvernance, notamment de la République démocratique du Congo. Pour mener cet entretien, on retrouve Rania de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Rania.
Bonsoir. Bonsoir Simon. Aujourd'hui, on accueille donc Thierry Vircoulon, consultant indépendant, chercheur associé à l'IFRI depuis 2006 et coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe. Bonjour Thierry Vircoulon.
Bonjour.
Le 26 juin 2025, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC ont signé un accord de paix sous la médiation directe de Donald Trump à Washington, qui s'annonçait plutôt ambitieux et prometteur de paix. Il devait permettre de mettre fin à une guerre de plus de 30 ans entre ces deux nations africaines. Est-ce que l'intervention qui est cadrée quand même audacieuse du président américain Trump dans ce conflit, et on peut le dire ce génocide, participe par son crédit, son influence et son poids sur la scène internationale à avancer vers une paix durable ou non ?
Bah, pour le moment, il n'y a pas de paix dans les Kivus, puisque les affrontements continuent. La médiation n'a pas réussi. Et l'accord, en fait, il n'y avait pas un seul accord, c'est un processus de Washington. Le 27 juin, c'était le premier accord qui était signé et qui devait être suivi par trois autres accords, dont un accord, le deuxième accord, c'est l'accord entre le M23 et le gouvernement congolais, qui lui est censé être négocié au Qatar, mais qui, dont la négociation a échoué. Et qui continue qu'à un cas, mais grosso modo, sur quatre accords qui devaient être signés, il n'y en a eu qu'un qui s'est signé. Le deuxième qui devait être signé à l'été est complètement lisé. Et comme je le dis, les discussions progressent qu'à un cas, et donc le processus n'avance pas.
Ce mécanisme de paix, comme vous le dites, se divise en plusieurs étapes. Donc la prochaine devra se dérouler les 19 et 20 novembre 2025. Que peut-on espérer jusque-là? Quelles sont les garanties éventuelles qui feraient respecter l'accord déjà commencé en juin dernier, sachant que sur le terrain, la situation sécuritaire, elle se détériore de jour en jour?
Ben, je vais répéter ce que j'ai dit. Le deuxième, l'accord numéro 2, celui dont vous parlez pour des négociations, n'a pas été signé. Et ça, c'est l'accord entre le M23, combat au Nord Kivu, et le gouvernement congolais. Donc, il n'y a pas d'avancée, et les combats continuent, et il n'y a aucune garantie que des négociations vont aboutir à un moment.
Le mouvement rebelle M23, il intensifie ses attaques et pousse des milliers de personnes à l'exode vers les pays voisins, le Burundi, l'Ouganda et même le Rwanda. Plus de 21 millions de Congolais ont besoin d'aide humanitaire actuellement, mais les routes, elles restent fermées face à l'insécurité et l'emprise du M23 sur la région, qui est l'une des plus densément peuplées du continent. Quelle est la position de ces pays voisins quant à ce conflit et surtout la migration de ces centaines de milliers de Congolais vers leurs frontières ?
Alors, la plupart des déplacés de ce conflit, ils sont au Congo, ils ne sont pas dans les pays voisins. Il y en a une partie qui sont dans les pays voisins, mais ce n'est pas l'essentiel. Le Rwanda est belligérant hein, dans ce conflit, puisque son armée est de l'autre côté de la frontière. Et en ce qui concerne l'Ouganda, on peut considérer qu'il est aussi partie prenante, puisque son armée est aussi rentrée au Congo. Et que l'armée burundaise, elle, a été repoussée jusqu'à sa frontière, mais était aussi au Congo. Donc, les trois pays dont on parle sont des pays qui sont parties prenantes au conflit, qui sont impliqués au conflit d'une façon plus ou moins intense. Il faut les considérer comme tels. Et leur attitude par rapport aux réfugiés, c'est qu'ils laissent les réfugiés entrer pour le moment. Le paradoxe, évidemment, c'est que les habitants de Goma, beaucoup ont fui au Rwanda, puisque Goma est la ville frontalière entre la RDC et le Rwanda. Donc la seule route qui était ouverte ou la plus simple, c'était de passer au Rwanda. Donc il y a ce paradoxe, en quelque sorte, qui fait que l'offensive militaire rwandaise provoque un afflux de réfugiés congolais au Rwanda. Mais pour le moment, ils laissent les frontières ouvertes et ils accueillent ces réfugiés. Mais comme je le disais, la grande masse des déplacés est au Congo.
L'enjeu foncier, c'est un aspect sous-estimé dans l'élaboration de plans de paix. Pourtant, selon plusieurs chercheurs, ce n'est pas seulement une histoire de population ou de démographie, mais de gouvernance au sein même du pays du Congo. En effet, les déplacements forcés de certaines populations civiles obligées de quitter leur village, leur terre et qui sont par la suite contraints d'y retourner, c'est l'une des sources clés du conflit Rwanda-RDC. En regagnant leur terre, ces populations elles font face à leur occupation par d'autres civils et ce mécanisme ça accentue les violences même intercommunales. Vous direz que le conflit est aussi lié à la gouvernance congolaise avant même les violences du M23 et du Rwanda?
Ben oui, parce que le Congo est un pays qui est un État qui est profondément dysfonctionnel, qui n'a pas été capable de bâtir d'armée depuis la chute du maréchal Mobutu, et donc qui est défait régulièrement par la même rébellion au Nord Kivu. Donc il y a ce problème fondamental de dysfonctionnement de l'État congolais, qui est dû au fait que ça soit une kleptocratie minière, tout simplement, et que les caisses sont régulièrement vidées par les dirigeants. Et par conséquent, dans cette situation, ils ne peuvent pas avoir une armée fonctionnelle qui puisse repousser leurs ennemis. Donc oui, il y a un vrai problème, un problème profond de gouvernance au Congo, qui ne va pas se résoudre demain, ça c'est clair. et qui tient, comme je le disais, à la nature kleptocratique du régime.
Pourquoi la région du Kivu et particulièrement la ville de Goma, donc, c'est le théâtre central de cette escalade de violence ? Est-ce qu'il y a un aspect stratégique, peut-être directement pour le M23 ? Est-ce intentionnel de leur part d'attaquer cette région en particulier ?
Bah, c'est intentionnel d'attaquer cette région parce qu'ils sont de cette région. C'est les Tutsis congolais qui dirigent le M23. Sont originaires de la zone du Nord Kivu, autour de Goma, le Masisi, etc., tous ces territoires. Et donc, c'est pour ça qu'ils visent évidemment le contrôle de ces territoires et qu'ils veulent établir, en tout cas, ils sont en train d'établir progressivement leur mainmise sur cette zone et d'en faire une sorte d'État à eux, de royaume parallèle, si je puis dire, au Congo. Puisque dernièrement, ils ont décidé de délivrer des visas. Donc c'est parce que c'est leur zone d'origine et celle où ils ont leurs intérêts matériels et moraux, comme on dit.
Comment on pourrait arrêter le FDLR, dont des milices sont aussi à l'origine du génocide des Tutsis en 1994 ? Et pourquoi ces génocidaires, ils n'ont pas été... neutralisé par le droit international pour crimes contre l'humanité.
Si vous pouvez aussi rappeler ce qu'est le FDLR pour les auditeurs qui...
Oui, alors les FDLR sont un mouvement armé qui est l'héritier des génocidaires de 1994, qui s'étaient sauvés du côté congolais de la frontière, qui avaient quitté le Rwanda et qui s'étaient réfugiés au Nord Kivu, justement. Et qui avait été ensuite poursuivi par l'armée rwandaise. Alors, il y a un résidu, les FDLR sont le résidu de ces personnes, mais comme là, on parle de choses qui se sont passées en 1994 et qu'on est en 2025, évidemment, ce n'est pas les gens de 1994 qui sont des combattants, parce qu'ils seraient un peu âgés maintenant. Donc, ce sont leurs enfants. Et leurs enfants, ils sont nés au Congo, de couples mixtes rwando-congolais. Ils n'ont jamais été au Rwanda. Et c'est quand même leur faire beaucoup d'honneur que de considérer qu'ils sont au cœur du conflit, parce que les Nations Unies les évaluent à 1000, 1500 au maximum, dans un environnement qui compte pour le Nord Kivu au moins facilement 5 millions d'habitants, avec une armée congolaise qui a été montée dans la zone à 20 000 hommes, avec une armée rwandaise qui est aussi extrêmement puissante. Donc considérer que 1 000 ou 1 500 personnes sont le défi de sécurité de la zone, c'est un peu risible.
D'accord. Est-ce que ce parti FDLR, il a un rôle dans cette région de l'Est de la RDC ?
Alors, c'est pas un parti, c'est un mouvement armé déjà, c'est une rébellion. Il a un rôle, il n'a pas un grand rôle, mais disons qu'il a un rôle néfaste dans le sens où il fait partie des quelques 200 groupes armés qu'il y a dans la région, qu'il permet au Rwanda d'avoir un argument pour passer de l'autre côté de la frontière et rentrer au Congo. Et donc, il constitue un problème, non pas militaire, mais un problème politique, dans la mesure où, depuis 30 ans, enfin 20 ans plutôt, puisqu'il est né au début de ce siècle, depuis 20 ans, ce mouvement existe toujours, mais comme je disais, à l'état résiduel, mais surtout fournit un argument politique fort à Kigali pour faire des incursions au Congo. Donc, et puis bon, il y a évidemment une autre dimension dont il faut parler, c'est que les FDLR sont liés aussi par un certain nombre de trafics aux autorités congolaises locales. Et de ce point de vue-là, ils agissent comme les autres groupes armés dont je parlais, qui sont une sorte de parasites sur l'économie locale.
Alors pourquoi vous insistez sur le fait que le FDLR n'est pas au cœur du conflit, on va dire, parce qu'il y a une population assez minime qui fait partie de ce mouvement armé. Pourquoi c'est ce mouvement qui est mis particulièrement en valeur, dont on parle particulièrement en tout cas ?
Le on dont vous parlez, c'est Kigali.
Oui.
Parce qu'il n'y a que le gouvernement rwandais qui met ça en valeur. Le gouvernement congolais ne met pas ça en valeur. Donc, C'est essentiellement un élément de l'argumentaire rwandais, et le principal élément d'ailleurs.
Eh bien, on va continuer de parler de ce conflit. Vous restez avec nous, Thierry Vircoulon. On continue d'échanger sur le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après cette musique, vous écoutez la matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris, c'était For You de Céline Banza.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
19h19, si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et spécialisé dans les questions de gouvernance et des conflits, notamment de pays comme la République démocratique du Congo. Et justement, la RDC, il en est question, puisqu'on parle avec Rania de l'accord de paix et malgré lui, du conflit persistant entre la RDC et le Rwanda. Rania.
Oui. Alors du coup, en quoi l'exploitation des ressources naturelles est-elle un facteur important dans le conflit de l'Est de la RDC, selon vous ?
L'exploitation des ressources naturelles a permis depuis 30 ans au conflit, au pluriel, de perdurer, puisque ça permet aux groupes armés de se financer directement. Et puis, ça permet aussi à un certain nombre de trafiquants de prospérer dans la zone et d'avoir des réseaux extrêmement extensifs jusqu'au gouvernement de la région pour maintenir ce conflit. Et l'économie politique derrière ce conflit est en grande partie basée sur les ressources naturelles du Kivu et notamment les ressources minières qu'on trouve dans le sous-sol parce qu'elles sont facilement accessibles. Alors c'est pas la seule ressource, mais disons que c'est surtout les ressources minières qui rapportent beaucoup d'argent. On estime actuellement que le M23, avec sa contrebande de minerais, gagne pas loin d'1 million de dollars par mois. Et donc c'est ça qui permet au conflit de perdurer.
Et en plus du M23, quel autre acteur éventuel tire profit de cette exploitation illégale de ces minerais dans cette région du Kivu?
Comme je le disais, il y a à peu près 200 groupes armés dans la région. Donc ça fait à peu près 200 groupes armés qui tirent profit de l'exploitation illégale des ressources naturelles, y compris des minerais.
Pour parvenir à l'arrêt de ce conflit, Donald Trump, il semble assez motivé. Quels sont selon vous ses intérêts personnels et étatiques à l'arrivée des États-Unis dans cette région parmi la table des décisionnaires?
Je pense que là, il y a la principale motivation. Alors premièrement, c'est le gouvernement congolais qui a appelé Washington. C'est pas Washington qui a appelé le gouvernement congolais. Et il l'a appelé après avoir vu l'intérêt de Washington pour les minerais en Ukraine, puisque c'est arrivé immédiatement après la séquence où il y avait une négociation entre l'Ukraine et Washington autour des réserves minières. Et donc le gouvernement congolais étant en très grande difficulté à ce moment-là, il a sollicité Washington pour être le médiateur en lui faisant miroiter l'accès à son secteur minier. C'est ça qui a motivé surtout Washington, parce qu'actuellement on estime que le secteur minier en RDC est contrôlé à 70% par des intérêts chinois, et donc c'est la question évidemment des minerais critiques qui est centrale dans ce bras de fer géopolitique.
En quoi cet accord de Washington, il pourrait éventuellement modifier les équilibres directement régionaux avec l'intégration économique, le contrôle de ces ressources?
Pour le moment, on voit qu'il ne modifie rien du tout, puisque comme je le disais, le processus est enlisé et qu'on a signé l'accord numéro 1 et on n'a pas signé l'accord numéro 2, ni le 3 ni le 4. Ce dont vous parlez, c'est les accords 3 et 4, c'est-à-dire la dimension économique du processus. L'accord numéro 1, c'était la dimension sécuritaire, il a échoué. Donc à partir du moment où sur le plan sécuritaire, il n'y a pas d'avancée, on ne va pas pouvoir investir.
Malgré les relances, puisque les accords 2, puis 3, puis 4 n'ont pas eu lieu, mais pourtant il y a eu des rencontres et encore...
On se rencontre régulièrement à Doha, le M23 et le gouvernement congolais envoient leur délégation, ils se rencontrent régulièrement et ça fait 3 mois qu'ils ne signent pas.
Rania. Est-ce que la seule porte de négociation peut se passer que par Washington? Parce que Washington est encore...
Et le Qatar.
Et le Qatar aussi. Est-ce que le Qatar et les États-Unis suffisent ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants diplomatiques qui pourraient faire basculer négociations de paix?
Alors, il y a une autre médiation, mais qui n'en est pas une, qui est censée être en cours, qui est la médiation africaine. Donc par l'Union africaine, par la SADC et l'East African Community, qui avait été annoncée au début du conflit, mais qui finalement ne s'est jamais matérialisée. Donc c'est une médiation fantôme. Comme souvent avec ce qui vient de l'Union africaine, c'est des gesticulations et des paroles, mais il n'y a pas d'action. Et donc, pour le moment, la seule médiation tangible, réelle, c'est la médiation américano-qatari. Et on voit bien qu'elle est enlisée. Mais ce n'est pas la médiation africaine qui va permettre, qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui va permettre de désenliser les choses. Il faut se rappeler que cette médiation africaine a failli aboutir en décembre 2024 à un accord, parce qu'elle avait été menée par le président angolais, et que lorsque les deux présidents congolais et rwandais ont dû signer, finalement le président rwandais n'est pas venu.
Et aujourd'hui, la médiation africaine n'a pas plus intérêt que ça, justement, à essayer de faire avancer ces négociations de paix pour...
Elle pourrait se réveiller, ça serait probablement une bonne chose, mais j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop endormie.
Pour les raisons que vous venez d'évoquer
Parce qu'il y a peu d'intérêt de la part d'Addis Abeba pour s'immiscer dans cette affaire.
Rania.
Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer un contrôle conjoint de ces zones minières du Kivu par la RDC et le Rwanda?
Le point d'achoppement des négociations à Doha entre le M23 et le gouvernement congolais, c'est le contrôle politico-militaire de la zone que contrôle le M23, c'est-à-dire surtout une partie au nord Kivu. C'est là-dessus qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et en effet, il y a eu des propositions sur la table de partage du pouvoir, en quelque sorte, entre le M23 et le gouvernement congolais dans cette zone. Et c'est précisément ce que ne veut pas le gouvernement congolais.
En quoi une meilleure gouvernance minière, elle pourrait contribuer directement à la stabilité politique et économique de cette région ?
Alors, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas songer à améliorer la gouvernance minière avant de faire la paix. C'est dans l'autre sens que ça peut fonctionner, parce que tant que c'est la guerre, améliorer la gouvernance minière dans les Kivu, ça ne va pas vouloir dire grand-chose. Parce que, comme je le disais, les groupes armés contrôlent une bonne partie des ressources naturelles. Enfin, le commerce des ressources naturelles. Donc, c'est d'abord un processus de paix qu'il faut mener à son terme. Après, il faut appliquer les accords, ce qui est encore un très long chemin. Et dans ces accords, en effet, il est prévu d'améliorer la gouvernance minière, c'est-à-dire à la fois de rendre le commerce des minerais plus transparent, avec la traçabilité, et en même temps de formaliser le secteur minier, qui est un secteur minier essentiellement artisanal, et où il n'y a pas de, qui n'est pas industriel, et donc qui est contrôlé par à la fois des communautés, mais surtout des communautés armées.
Est-ce que d'autres acteurs comme l'ONU, par exemple, pourraient jouer un rôle clé dans ce conflit ?
L'ONU était censée jouer un rôle clé dans ce conflit, puisque la MONUSCO, la mission des Nations Unies, pour le Congo est présente depuis 1999 et elle est essentiellement au nord Kivu et en Ituri. Lors de la prise de Goma, elle a montré qu'elle ne servait à rien. Lors de la prise de Bukavu, à Bukavu elle n'y était pas, mais à Goma elle était là, et en fait les casques bleus sont retrouvés pris au piège dans la ville et sont enfermés dans leur base. Donc la MONUSCO et par son entremise, l'ONU ne joue plus aucun rôle ni militaire ni politique dans cette région, même s'il y a plusieurs milliers de casques bleus qui sont encore déployés au nord Kivu.
Quelle est, selon vous, la solution pour mettre fin à ce conflit ? On sait que les appels à l'aide humanitaire persistent encore de jour en jour, encore aujourd'hui, mais que rien ne semble bouger et qu'il y a un danger qui touche la population locale.
Je crois que le danger, il a touché la population locale depuis longtemps, parce qu'on parle d'un conflit qui a 30 ans. Donc, des déplacés, il y en a eu beaucoup, et des tués, il y en a eu beaucoup aussi. Mais la question de l'aide humanitaire, c'est d'abord un problème d'accès, puisque depuis la prise de Goma et de Bukavu par le M23 au début de cette année, les deux aéroports de Goma et de Bukavu ont été fermés. Donc, on ne peut pas acheminer de l'aide humanitaire importante par voie aérienne, comme c'était le cas lors des autres crises. Donc il y a déjà ce premier problème qui est que les aéroports sont fermés. Il y a un deuxième problème qui est que, comme je le disais, le M23 est en train d'affermir son emprise sur sa zone et donc de forcer les humanitaires à passer par lui pour distribuer de l'aide et pour avoir l'autorisation d'intervenir de toute façon. Donc on voit que sur le plan humanitaire, les choses sont quand même assez, là aussi assez bloquées, et qu'elles ne pourront se débloquer qu'avec le processus d'accord dont on parlait. Et c'est dans le cadre de ce processus d'accord qu'il faudra obtenir la réouverture de l'aéroport et le fait que le M23 ne contrôle pas les ONG humanitaires dans sa zone.
Est-ce que vous avez quand même un endroit d'optimisme ou actuellement, ça semble quand même très compliqué ?
Écoutez, ce sont des conflits, parce que c'est un système de conflits, les Grands Lacs, qui dure depuis 30 ans. Donc, c'est pas comme si d'un coup de baguette magique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que certains ont cru que Donald Trump allait y arriver, alors qu'il n'y arrive pas et qu'il n'y arrivera pas. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et ça nécessite beaucoup trop de prise de risque pour l'administration Trump, d'une part, et parce que, en fait, de plus en plus, je crois que les Américains comprennent que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Mais d'autant plus, j'imagine que les États-Unis n'avaient qu'un enjeu, entre guillemets, minier dans la résolution de ce conflit. Ils n'avaient pas un enjeu de réelle organisation de la paix dans la région, quoi. Donc,
Bah, c'est-à-dire que, à moins qu'on considère que Trump soit un faiseur de paix, ce qui n'est pas mon cas, je comprends pas trop le sens de cette intervention. La diplomatie américaine est guidée par quelques considérations stratégiques, dont celle de contrer un peu la Chine dans son contrôle du marché des terres rares et des minerais critiques. Et elle est aussi guidée, malheureusement, par un impératif d'ego de Trump. Et c'est probablement cet impératif d'ego qui fait que toutes ces initiatives échouent.
Eh bien, on continuera de suivre en tout cas l'avancée du processus de paix. Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Et je précise que demain s'organise à Paris la conférence de soutien à la paix et à la prospérité de la région, dans la région pardon, des Grands Lacs, qui est en coordination justement avec le médiateur de l'Union africaine. Merci d'avoir été à notre micro Thierry Vircoulon. Vous
beaucoup.
Écoutez Radio Campus Paris, il est 19h31.
Le flash info de la matinale de 19h.
L'actualité de ce 29 octobre 2025, c'est avec Samia. Bonsoir Samia.
Bonsoir. Alors on commence en France aujourd'hui. Le Sénat a définitivement adopté le texte inscrivant explicitement la notion de consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles par 327 voix pour et 15 abstentions. Tout acte sexuel non consenti est désormais juridiquement considéré comme un viol ou une agression sexuelle. La France rejoint donc plusieurs pays ayant déjà procédé à cette évolution du droit comme la Suède, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Près d'un an après le retentissant procès des viols de Mazan, lors duquel la question du consentement de la victime avait pris une place centrale. Le droit pénal va donc être clarifié noir sur blanc. Un risque majeur à l'encontre de cette loi serait une inversion de la charge de la preuve qui obligerait les plaignants à prouver qu'elles ne sont pas consentantes. C'est depuis le 5 septembre qu'un adolescent de 17 ans a été mis en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroristes. En effet, le jeune homme prévoyait d'attaquer une école dans la Sarthe et un bâtiment public. C'est ce mercredi 29 octobre que son avocat affirme que l'adolescent a utilisé l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT pour préparer ses projets d'attentat. International maintenant, c'est à Gaza le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre est perturbé. Malgré une réponse du président américain Donald Trump qui a voulu se montrer rassurant à propos de la trêve, les frappes meurtrières ont tout de même mené à la mort d'au moins 101 Palestiniens, dont 35 enfants, selon la défense civile à Gaza. Cela fait suite à la mort d'un soldat israélien dans la bande de Gaza. Toutefois, Israël a déclaré avoir repris le cessez-le-feu ce mercredi matin avant de frapper dans l'après-midi un dépôt d'armes dans le nord de la bande de Gaza. L'Union européenne a de son côté demandé un appel au calme et un respect de l'accord. Pour rappel, en vertu de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a libéré au 13 octobre l'ensemble des 20 otages vivants qu'il retenait à Gaza depuis son attaque contre l'Israël le 7 octobre 2023. De son côté, au moins 94 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens depuis le 10 octobre. Jamaïque, c'est en Jamaïque en effet, le pays a été balayé par l'ouragan Melissa, évolué entre la catégorie 3 et 5, avec des vents atteignant près de 300 km par heure. Il se dirige dangereusement vers Cuba ce mercredi 29 octobre. Même si aucun bilan humain ou matériel n'a encore été annoncé, le premier ministre jamaïcain Andrew Holmes a déjà déclaré que l'île était une zone sinistrée après le passage de ce puissant ouragan, le plus fort jamais enregistré en Jamaïque. Le bilan matériel est lourd. En Jamaïque, des vents violents et de fortes pluies ont provoqué d'importantes inondations et des coupures d'électricité dans environ 530 000 foyers, soit un quart de la population de l'île. Le gouvernement jamaïcain a déclaré être dans la capacité, à l'heure actuelle, de donner un bilan officiel quant au nombre de décès provoqués par l'ouragan Melissa. En Haïti, le bilan monte à 20 morts après le passage de l'ouragan et des recherches de disparus sont toujours en cours. On finit avec le point culture. Mardi 28 octobre, le prix littéraire du mois de décembre a été décerné à la poétesse et romancière française Laura Vasquez pour son roman Les Forces, paru aux éditions Sous-Sol. Les Forces reprend les codes du roman d'apprentissage, tout en les transformant. Le récit alterne entre quotidien et réflexion, mêlant tragique et comique. On suit le parcours initiatique et politique de la narratrice.
Merci beaucoup Samia, on continue, l'actualité continue dans un instant à suivre la chronique de Fabien sur Halloween, si je ne dis pas de bêtises, et le Zoom où on va parler cette fois du Congo Brazzaville, hasard de la programmation, mais d'abord on écoute ça, à tout de suite.
Mouzina, Mouzina ditata, edi mwana, edi mpeve santu,
Mousina ni tata nzambe o Mousina
Babota mabazala bakufa bala mukamba sekwa
Basumuki babo ya nzambe batala yepamba tango ya bisengo
Kasi kombo ya nzambe zalia makasi boboto ya yawe ya nkembo Makolimbi sabango
Muzina
Muzina di tata Edi mwana Edi mpeve santu Muzina di tata nzambeo Ya muzina
C'était Musina de Taboulaye Rochereau sur Radio Campus Paris. Il est 19h40.
La matinale de 19h.
Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et Fabien, J-2 avant la fête préférée des dentistes.
Et oui, tout à fait, le 31 octobre, c'est Halloween. Et Halloween, ça peut sembler être un mélange de célébrations, de farces et de profits commerciaux, bien loin des origines de cette fête automnale. Au fil des siècles d'ailleurs, Halloween a en effet beaucoup évolué. Les origines d'Halloween remontent quand même à 2000 ans. Longtemps, les peuples celtiques européens ont célébré l'entrée dans la nouvelle année, le 1er novembre, appelé Samhain. À la veille de Samhain, notre Halloween moderne, on pensait que les esprits parcouraient la Terre pour se rendre dans l'au-delà. Des fées, des démons et d'autres créatures erraient eux aussi en cette nuit singulière. En plus de sacrifier des animaux aux dieux et de se rassembler autour de feux de joie, les Celtes portaient souvent des costumes, probablement des peaux d'animaux, pour tromper les mauvais esprits, peut-être même pour éviter d'être possédés. En dissimulant leur visage sous des masques ou en noircissant leur visage, on pense également que les Celtes aimaient à se faire passer pour des ancêtres défunts. Les Celtes ayant revêtu l'apparence des esprits malfaisants, allaient de maison en maison, se livraient à des actes stupides en échange de nourriture et de boissons, une pratique inspirée peut-être par une coutume antérieure qui consistait à laisser de la nourriture et des boissons à l'extérieur des habitations en offrant aux êtres surnaturels. Samhain a ensuite évolué lorsque les chrétiens ont coopté les fêtes parisiennes. Au 7e siècle, le pape Boniface IV a décrété que le 1er novembre serait la Toussaint, fête au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints connus et inconnus. La nuit précédant Samhain a continué à être observée avec des feux de joie, des costumes et des défilés, bien que sous un nouveau nom, All Hallows'Eve, littéralement la nuit de tous les saints, contractée plus tard en Halloween. Les immigrants européens ont emporté avec eux Halloween aux États-Unis et la fête a vraiment pris de l'ampleur dans les années 1800 lorsque l'immigration iro-américaine a connu son paroxysme. Anoka dans le Minnesota a été le théâtre de la plus ancienne célébration officielle d'Halloween aux États-Unis. À partir de 1920, la ville a commencé à organiser un défilé et des feux de joie. Les historiens d'Anoka indiquent que les citadins cherchaient à interdire ou du moins à limiter les farces d'Halloween qui mettaient à mal l'ordre public. Et enfin, le coup des bonbons, un bonbon ou un sort, c'est la phrase emblématique de la soirée du 31 octobre. Et d'où vient cette tradition sucrée ? La sonnette de chez vous retentit, vous vous rendez sur le pas de la porte, les bambins des voisins vous font face, déguisés en fantômes, sorcières ou vous-même, des bonbons ou un sort lancent en cœur. Et c'est déjà la 10e fois de la soirée que vous distribuez des poignées de bonbons. En fait, mettre les sucreries à l'honneur n'est pas qu'un concept marketing et ça ne date pas d'hier. Il y a plus de 2500 ans, comme je disais, les Celtes fêtaient Samhain, l'ancêtre d'Halloween, et cette fête marquait la fin de l'été et la transition vers la saison sombre de l'année. À cette occasion, les Celtes croyaient que le monde des morts visitait celui des vivants. Effrayés à l'idée que des fantômes malveillants s'invitent jusque dans leur maison, ils imaginent une stratégie pour apaiser les défunts. Des offrandes sous forme de gâteaux et de pommes étaient déposées à l'entrée des villages. D'ailleurs, à cette époque, au lieu de citrouilles, on utilisait des navets évidés et sculptés en lanterne pour éclairer les chemins. Puis au 7e siècle, l'Église catholique romaine rajoute son grain de sel en voulant christianiser les anciennes coutumes païennes. Le pape Boniface IV crée la fête de la Toussaint, également connue sous le nom de fête de tous les saints, pour honorer les martyrs chrétiens.
Eh bien, merci Fabien. Et je crois qu'il y a encore des gens qui fêtent Samhain, notamment dans les pays qui ont des origines celtes, mais encore à certains endroits. Merci Fabien. 19h43.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom de ce soir est présenté par Julie et Aude. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
On parle de l'avenir du Congo Brazzaville avec votre invité.
Oui, aujourd'hui on reçoit Mélène Destin-Gavé-Elengo, ingénieur géologue pétrolier, homme politique congolais, président du parti Mouvement Républicain et candidat aux prochaines élections présidentielles. Il est auteur du livre « Le changement vers un Congo prospère » publié aux éditions Baudelaire, un ouvrage de plus de 500 pages où il propose une feuille de route très concrète pour transformer le Congo sur le plan économique, social et politique. Bonjour Mélène Destin-Gavé-Elengo, merci d'être avec nous.
Bonjour madame et merci de me recevoir sur votre plateau.
Alors on va commencer simplement. Donc « Le changement », titre de votre livre, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot et pourquoi ce livre maintenant ?
Alors, le changement, déjà parce que effectivement, le Congo, notre pays, est dirigé depuis 41 ans par un seul homme et depuis 50 ans par un seul parti politique, le Parti congolais du travail. Et ce que nous avons remarqué depuis les indépendances à aujourd'hui, toutes les politiques qui ont été mises en place n'ont pas pu apporter des solutions aux problèmes des Congolais, notamment les questions d'eau, d'électricité, d'emploi, de santé, d'éducation, etc. Et donc, aujourd'hui, la population congolaise, en grande majorité, qui est jeune, a besoin d'un changement profond, c'est-à-dire d'une transformation radicale de tout ce que nous avons connu depuis lors. D'où nous avons eu l'idée de proposer ce titre, donc « Le changement vers un Congo prospère », afin d'apporter les solutions aux problèmes auxquels nos populations font face.
Très bien. C'est un livre qui dépasse le cadre électoral, vous le précisez vous-même. Est-ce qu'on peut dire qu'avant tout, c'est une vision de société plus qu'un programme politique ?
Oui, effectivement, c'est une vision de société. Bon, ça cadre avec l'élection. Sinon, c'est un livre qui va au-delà de l'élection parce que les problèmes que nous traitons peuvent être considérés comme des problèmes généraux au niveau africain, parce que dans la plupart des pays africains, il faut le dire, surtout en Afrique subsaharienne, nous avons quasiment les mêmes réalités. Donc c'est un livre, oui, qui peut être perçu comme une véritable vision, mais avec effectivement des thématiques appropriées au Congo et en rapport avec l'élection qui arrive, d'où j'ai été désigné candidat le 19 et 20 décembre 2024 lors de notre congrès ordinaire tenu ici à Brazzaville.
Et quand vous parlez de rupture avec le système en place, qu'est-ce qui, selon vous, freine le plus aujourd'hui le développement du Congo ?
Alors, déjà, nous sommes partis d'un constat. Le constat, il est tout simple. C'est que nous avons remarqué qu'il y a trois mots qui minent notre pays. Il y a ce que nous appelons ici le tribalisme, il y a le népotisme, il y a le manque de patriotisme. Pourquoi le tribalisme ? Parce que nous avons remarqué qu'aujourd'hui, le pouvoir est concentré par un clan, donc le clan de l'actuel président, où la plupart des hautes fonctions sont occupées par les membres de ce clan. Nous avons le népotisme parce que nous avons la plupart de ceux qui occupent les fonctions au niveau de l'appareil de l'État, ce sont les enfants, les neveux, les petits-fils, etc. Et le manque du patriotisme, parce que nous remarquons que malgré les richesses que nous avons ici au Congo, le pétrole, le bois, l'or, etc. Mais les populations vivent dans l'extrême pauvreté. Pourquoi ? Parce que les dirigeants préfèrent aller investir à l'extérieur, aller cacher de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous vous rappelez de Pandora Papers, Panama Papers, Global Witness, tous ces scandales financiers qui ont mis à nu les dérives de notre régime. Et donc, pour changer les choses, il faut effectivement apporter des solutions à ces problèmes, à ces maux. D'où nous avons donc prévu, une fois que nous serons aux affaires, instituer des hauts conseils de lutte contre le tribalisme, lutte contre le népotisme et instaurer une véritable culture du patriotisme. Et ça va de pair avec la corruption, éradiquer la corruption en mettant en place un parquet financier, en renforçant ou en créant des organes de lutte contre la corruption. Parce que, madame, le Congo fait partie des 10 pays les plus corrompus d'Afrique. Et donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faut rompre avec ces pratiques. Et pour rompre avec ces pratiques, il faut de la rigueur et il faut de la discipline. Et nous pensons que dans ce livre, nous avons proposé toutes ces solutions afin de mettre fin à ce cycle qui a trop duré et qui empêche à notre pays aujourd'hui d'atteindre son niveau de développement.
Merci. C'est vrai que vous nous parlez de nombreux défis auxquels le Congo fait face. Et donc à la fois la lutte contre la corruption, mais vous, dans votre livre, vous parlez aussi de la nécessité d'une transparence, la digitalisation, la souveraineté monétaire. Si on devait commencer quelque part, quelle serait la première réforme prioritaire pour enclencher ce changement ?
Alors nous allons commencer, effectivement, madame, vous avez parlé de la digitalisation. Nous avons parlé, effectivement, de la digitalisation ou bien de l'informatisation du système judiciaire, parce que nous avons un système judiciaire aujourd'hui qui est sourd, qui est aveugle, ce n'est pas informatisé. Quelqu'un peut commettre un forfait dans une autre ville et aller se faire délivrer un casier judiciaire dans une autre. Donc nous voulons mettre de l'ordre en commençant par le secteur judiciaire, parce que la justice est pourrie. D'ailleurs, l'actuel président a souvent l'habitude de le répéter. Et donc, il faudrait effectivement mettre en place des mécanismes de contrôle et mettre en place une justice souveraine, parce qu'elle n'est pas souveraine aujourd'hui. La justice est piétinée par l'exécutif, parce que l'actuel président de la République est également président du Conseil supérieur de la magistrature. Son ministre de la Justice est vice-président de ce conseil. Donc nous pensons qu'il faut effectivement rendre la justice libre, une véritable séparation de pouvoir, une fois que c'est fait. Et nous allons donc effectivement mettre en place, comme je l'ai dit, un parquet financier, une autre autorité de lutte contre la corruption, etc. Et nous allons donner à la justice les armes nécessaires pour que le contrôle soit effectif, notamment la déclaration de patrimoine, Ce sont des choses aujourd'hui qui sont écrites noir sur blanc dans notre Constitution. Malheureusement, le pouvoir actuel viole toutes ces dispositions légales et réglementaires. Donc, rendre la justice efficace. Et aujourd'hui, voilà, nous avons mettre en place des véritables juges indépendants qui vont avoir l'autonomie de déclencher des procédures en termes de mauvaise gestion, de transparence, etc. Et une fois que nous allons finir avec le chantier de la justice, il faut regarder les problèmes sociaux, madame. Il y a une grande urgence, en ce qui concerne les problèmes sociaux. Si nous regardons la question de santé, par exemple, le système de santé, le système sanitaire congolais est à terre. Aujourd'hui, pour un simple paludisme, on peut perdre la vie. Pour une ordonnance de 2000, on ne peut pas se faire soigner. D'où nous allons instaurer la gratuité des urgences. C'est-à-dire que quand un citoyen arrive à l'hôpital, on s'occupe du citoyen avant de chercher à demander l'argent de la consultation, etc. Nous allons mettre en place ce que nous avons appelé les cliniques mobiles. Les cliniques mobiles, c'est de comprendre aujourd'hui que nous avons dans notre pays des questions de route. Il est difficile aujourd'hui d'avoir accès à certaines localités. Je parle ici d'Ifondo et Pena. Je parle ici de Divenier où les routes sont pratiquement dégradées. Donc, les cliniques mobiles, c'est de permettre à l'hôpital d'aller vers les citoyens qui ont du mal à se déplacer. Donc, à ce niveau, nous allons nous équiper des 4x4 solides, bien équipés avec du matériel, avec des agents de santé, médecins, infirmiers, etc., pour permettre à des femmes dans les fins fonds de donner vie, parce qu'aujourd'hui, les femmes meurent suffisamment au Congo en donnant la vie, alors que ça ne devait pas être le cas. Donc, permettre les cliniques mobiles, c'est pour sortir déjà la population de cette prison où les gens peuvent mourir d'un paludisme, comme je l'ai dit, d'une diarrhée, voilà. Et une fois que c'est fait, ça nous donne le temps de construire des hôpitaux généraux équipés, parce qu'aujourd'hui, on nous vante des hôpitaux, merci, mais sauf que quand vous rentrez, il n'y a pas de plateau technique, et donc du coup, ça devient difficile. Et après, nous allons nous attaquer, comme je l'ai dit, au-delà de la santé, l'eau, l'électricité. Le Congo est l'un des pays les plus arrosés au monde, on n'a pas d'eau. Et donc, il faut construire les systèmes d'adduction d'eau potable. Il faut construire des barrages hydroélectriques.
Eh bien, merci beaucoup. Je suis désolée, ça va être la fin de cette interview. On vous remercie. Donc, vous avez publié Le changement vers un Congo prospère, publié aux éditions Baudelaire.
C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir reçu dans la matinale de 19h.
Merci à
Radio Campus. Merci à
on va encore écouter 19h53 encore une musique avant qu'il y ait encore une chronique. Vous écoutez la matinale de 19h. I'm tired, justement, c'est ce que j'allais dire. I'm tired, the Suns, c'était il y a littéralement 2 secondes sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Plus que quelques minutes avant de se quitter, mais d'abord, Corian, tu nous parles d'un film sorti en salle aujourd'hui.
Oui, vous avez déjà sûrement acheté un article via une plateforme de vente en ligne. Mais vous êtes-vous alors demandé qui était la personne qui a des milliers de kilomètres à préparer votre commande ? Poser un visage sur ces personnes travaillant aux coulisses des grandes firmes capitalistes, voilà la louable intention du film dont je vais vous parler aujourd'hui. Unfalling de Laura Carrera, premier long-métrage de cette jeune réalisatrice, il a été primé à Saint-Sébastien ou encore au BFI London Film Festival. Parmi les sociétés de production, il n'est pas étonnant de retrouver 16 Films, cofondée par Ken Loach, légende du cinéma social britannique. Alors, que nous raconte Unfalling ? On y suit Aurora, une immigrée portugaise aux alentours de 35 ans, travaillant justement comme préparatrice de commandes dans un grand entrepôt à Édimbourg. Aliénée par ce job déshumanisant qui la contraint à la précarité, elle tente tant bien que mal de ne pas sombrer. Comme ce résumé peut vous le laisser paraître, Unfalling n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un film revigorant. Il est même souvent assez éprouvant. L'un de ses partis pris, par exemple, est de rendre compte du quotidien monotone d'Aurora grâce à de longs plans qui s'étirent dans la durée, où on la voit scanner inlassablement des articles le long des étagères de l'entrepôt. Mais il n'en reste pas moins une proposition édifiante, sensorielle même, j'aurais envie de dire, sur les conditions de l'ouvrier moderne. C'est nourri en plus d'un travail de recherche auprès de vraies préparatrices de commandes. Une nouvelle forme de taylorisme est à l'œuvre, nous montre le film. D'apparence plus soft, où l'on ne vous écrit pas dessus pour accélérer la cadence, mais non moins aliénante car infantilisante. Dans l'une des scènes, Aurora est appelée dans le bureau d'un manager qui l'invite alors à piocher une barre chocolatée dans une boîte afin de la récompenser de ses bonnes performances. Un trophée anesthésiant qui cache bien son jeu. D'autant plus grinçant, sachant qu'Aurora est addict au sucre, moyen pour elle d'accéder à des shots d'endorphine que sa condition tend à effacer. Comme son titre l'indique, Unfalling est aussi un film saisissant sur la bascule dans la dépression. L'actrice principale, Joana Santos, incarnant de façon très forte cet état constamment sur la brèche. Alors, le long métrage n'est pas parfait, hein. Il enfonce parfois un peu des clous et manque un peu d'idées de mise en scène, mais pour moi c'est une œuvre qui reste, qui vous habite après le visionnage. Je tiens à dire, et je terminerai là-dessus, qu'on ne peut pas non plus réduire le film à la simple dénomination « film plombant ». Car en plus de faire preuve d'une vraie empathie pour ses personnages, il s'attache aussi à montrer les liens humains qui subsistent malgré les dérives des sociétés consuméristes. Aurora vivait dans une colocation auprès d'autres immigrés au quotidien similaire, et les scènes d'échange entre eux apportent de belles respirations. Bref, un film froid, hein, indéniablement, construit en pente descendante, mais ponctué de rares instants de chaleurs humaines, qui nous les montrant de fait à quel point ils sont indispensables. En tout cas, si vous avez déjà fait des jobs répétitifs dans de grandes entreprises, certaines scènes du film vont vous parler, c'est une certitude. Unfalling de Laura Carrera, ça sort aujourd'hui et je vous invite à vous y plonger.
Voilà, il n'y a plus qu'à foncer en salle. Merci beaucoup Corian pour cette première chronique en plus sur Radio Campus Paris. Merci, c'était le baptême de l'air. Et en parlant de personnes qui ont fait leur première interview, merci beaucoup à Rania d'avoir mené l'interview de Le Grand Sujet de ce soir. Merci beaucoup à Aude et à Julie à l'animation du Zoom. Merci à Delila à la réalisation. Merci à Fabien et Corian aux chroniques, je le disais. Et merci évidemment à Samia aussi d'avoir réaliser le Flash Info. Aude et Jeanne, encore Aude à la coordination de cette émission. Et évidemment, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org et sur votre application, sur l'application de votre choix. Demain à 13h pour la rediffusion sur le DAB+ Canal Campus en Ile-de-France. Moi, je vous dis, la matinale vous dit à demain, mais moi, je vous dis à tout de suite, puisque c'est le monde zygomatique avec, je crois, Aurel San comme non-invité, voilà, qui a une actualité politique très chargée, comme vous vous en doutez. À tout de suite sur Radio Campus Paris. Et à demain pour la matinale. Cordialement.